Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'envisager d'abandonner la foi en Christ? Et si oui, qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Si vous êtes là ce matin, j'imagine que au moins vous efforcez de tenir bon. Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Et on pourrait poser la question différemment, qu'est-ce que nous pourrions dire à ceux et celles peut-être de notre entourage qui seraient tentés d'abandonner la foi en Jésus-Christ? Dans sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul s'adresse à des personnes qui s'estiment encore chrétiennes, mais qui sont tentées par des enseignements qui, selon l'apôtre, sont en train de les faire dévier du cœur même de la foi, sont en train de les éloigner de Jésus-Christ. Les Galates étaient des hommes et des femmes, dans leur majorité en tout cas, d'origine non-juive, mais ils s'étaient laissés convaincre, comme on l'a vu au cours de quelques messages récents, ils s'étaient laissés convaincre qu'ils devaient se soumettre à la loi rituelle du judaïsme pour être authentiquement chrétiens. Et comme on l'a déjà vu, donc, l'apôtre Paul considère qu'il y a là une atteinte au cœur même de la foi en Jésus-Christ. Parce que la seule chose qui peut rendre l'homme juste aux yeux de Dieu, c'est la mort sacrificielle de Jésus et sa résurrection, reçue par la foi. Et toute cette lettre aux Galates est en fait un plaidoyer par lequel l'apôtre Paul supplie les Galates de renoncer à ces enseignements pernicieux et de s'attacher à nouveau à la bonne nouvelle qui a changé leur vie. Je vous invite à lire ce matin dans la lettre aux Galates au chapitre 4, les versets 8 à 31. Dans les Bibles bleues, c'est à la page 1139. Galates chapitre 4, à partir du verset 8. Voici donc ce qu'écrit l'apôtre Paul. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de Dieu qui par nature n'en sont pas. Mais maintenant que vous connaissez Dieu, ou plutôt que vous êtes connus de Dieu, comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave? Vous observez scrupuleusement les jours, les mois, les saisons et les années. Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous. Je vous en supplie, mes frères, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous le savez, c'est à cause d'une maladie que je vous ai annoncé la bonne nouvelle pour la première fois. Et si éprouvante qu'ait pu être pour vous, ma chair, vous ne m'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire accueilli comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité? La passion qu'ils ont pour vous n'est pas bonne. Ils veulent seulement vous détacher de nous afin que vous vous preniez de passion pour eux. Il est bien d'être l'objet d'une passion bonne en tout temps. Pas seulement quand je suis présent parmi vous, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement, jusque le Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant présent parmi vous et trouver le ton qui convient, car je suis dans l'embarras à votre sujet. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la servante et un de la femme libre. Mais celui de la servante est né selon la chair et celui de la femme libre du fait de la promesse. Il y a là une allégorie, car ces femmes sont deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, fait naître pour l'esclavage, c'est Agar. Or, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem de maintenant, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, et c'est elle qui est notre mère. En effet, il est écrit, « Sois en fête, femme stérile, toi qui n'as pas d'enfant, éclate en cri de joie, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'accouchement, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Quant à vous, mes frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Mais tout comme autrefois celui qui était né selon la chair persécutait celui qui l'était selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Or, que dit l'Écriture? Chasse la servante et son fils, car le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants de la servante, mais ceux de la femme libre. Le texte aujourd'hui n'est pas des plus faciles, mais ses idées centrales sont claires. On va essayer de comprendre ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, et on va essayer de réfléchir à ce que nous pouvons apprendre de ce plaidoyer pour faire face justement à ces moments où nous-mêmes, ou certains de nos frères et sœurs, sont tentés de se détourner de l'Évangile. Nous allons voir ce que ce texte peut nous dire de ce à quoi nous pouvons nous accrocher dans ces moments-là. Et la question de départ que je vais poser est la suivante, tout simplement, comment l'apôtre Paul procède-t-il pour persuader les Galates de s'accrocher à l'Évangile? Et on va voir qu'il emploie dans ce texte un argument rationnel, un argument émotionnel et un argument biblique. Et donc on va voir ça en trois temps, on va commencer par un argument rationnel. Le premier argument que l'apôtre emploie s'adresse donc à la raison des Galates. Il veut leur montrer à quel point il serait déraisonnable, absurde même, de renoncer aux convictions qui étaient les leurs pour adopter ce qu'il a déjà appelé au début de sa lettre un autre évangile, en fait un faux évangile. Alors, pourquoi est-ce que ce serait si déraisonnable? Eh bien, le verset 8 rappelle aux Galates leur passé dans le paganisme, leur passé païen. « Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous étiez esclaves de dieux qui, par nature, n'en sont pas. » Vous étiez esclaves de faux dieux. Avant de rencontrer Jésus-Christ, les Galates, comme l'immense majorité des non-juifs de leur temps, adoraient des idoles en tout genre, des cultes polythéistes. Et Paul rappelle ici le caractère profondément vide et faux de ces cultes idolâtres. Et ça, c'est un thème biblique qu'on retrouve de manière tout à fait régulière. Dans l'Ancien Testament, déjà, à bien des reprises, on voit les prophètes d'Israël se moquer des idoles païennes en bois ou en pierre qui ne peuvent rien dire, qui ne peuvent rien faire, qui ont été créées par les hommes, par contraste avec le Dieu souverain qui a créé les hommes et l'univers. Et on peut penser par exemple à un épisode assez connu où les prophètes de l'idole Baal multiplient les incantations pour faire venir le feu. Et Élie, qui assiste à la scène, Élie prophète du Dieu d'Israël, se paye leur tête. Il doit penser à quelque chose, ou bien il est occupé. Peut-être qu'il dort et qu'il va se réveiller. Un roi, chapitre 18, verset 27. Eh bien, un peu de la même manière, Paul rappelle que les Galates, par le passé, ils étaient eux aussi idolâtres et ils adoraient, verset 8, des dieux qui, par nature, n'en sont pas, des faux dieux. Mais Paul estime que ces croyances n'étaient pas simplement vaines, futiles. Ceux qui adorent les idoles deviennent esclaves de ces idoles. C'est ce qu'il souligne dans ce verset 8. Vous étiez esclaves de dieux qui, par nature, n'en sont pas. Alors là, on pourrait objecter à première vue qu'il faudrait savoir si ce sont de faux dieux, s'ils n'existent pas vraiment, comment est-ce qu'on pourrait être leur esclave? Et à cela, on peut apporter, je crois, deux réponses complémentaires. La première, c'est que dans la Bible, on voit que c'est toujours une oppression occulte qui se cache derrière le vide spirituel de l'idolâtrie. Paul lui-même, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrit que ceux qui sacrifient à des idoles, en réalité, sans le savoir, sacrifient à des démons. 1 Corinthiens 10, verset 20. L'objectif de l'adversaire, depuis le début, depuis la faute originelle, c'est de nous éloigner du vrai Dieu pour nous fier à nos propres œuvres, à ce que nous pouvons faire par nos propres mains, à notre propre justice, nos idoles. La deuxième réponse qu'on peut apporter à cette question, comment est-ce qu'on peut être esclave d'un faux Dieu, c'est que lorsqu'on accorde sa dévotion, son allégeance absolue à des choses ou à des idées qui ne sont pas Dieu, lui qui seul mérite cette allégeance, eh bien le résultat c'est toujours un asservissement. Qu'on adore Zeus, Baal, Artémis ou aujourd'hui plutôt sa carrière, son statut social, son plaisir, ses loisirs. On doit toujours chercher de toutes ses forces à donner du sens aux choses alors qu'on fait face encore et encore à l'absence de sens de ces choses en elles-mêmes. On s'efforce à la sueur de son front de maîtriser la vie alors que la vie nous échappe. On cherche à se fixer des règles qu'on est le premier à transgresser. On recherche un absolu tout en se heurtant sans cesse à nos propres limites et incohérences. Et donc pour les auteurs bibliques, ne pas connaître le Dieu vivant, c'est pas seulement passer à côté du sens de la vie, c'est ça aussi, mais c'est se laisser réduire à l'esclavage du non-sens. Et à vrai dire, difficile de ne pas voir cet esclavage du non-sens puissamment à l'œuvre dans notre société occidentale aujourd'hui. agnostique, relativiste. Peu après le 11 septembre 2001, le philosophe décédé depuis, le philosophe Philippe Muret écrivait une lettre ouverte aux djihadistes d'Al-Qaïda qu'il a appelé « Chers djihadistes ». Et c'est un texte plein d'ironie où, en fait, en creux, il vise plutôt notre société, notre culture. Et voici ce qu'il écrit en faisant mine de s'adresser à ceux qui ont préparé les attentats. « Craignez la colère du consommateur, du touriste, du vacancier descendant de son camping-car. Vous nous imaginez vautrer dans des plaisirs et des loisirs qui nous ont ramollis ? Eh bien, nous lutterons comme des lions pour protéger notre ramollissement. Nous nous battrons pour tout, pour les mots qui n'ont plus de sens et pour la vie qui va avec. » Et un autre philosophe, Fabrice Hadjadj, qui le cite en 2015, ne peut pas résister d'ajouter cette petite phrase. « Et nous nous battrons spécialement pour Charlie Hebdo. Nous en ferons l'emblème de la confusion et du néant qui nous anime. » Alors, évidemment, le contexte des Galates était très différent. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais la même absence de sens caractérisait leur vie jusqu'à leur rencontre avec Jésus-Christ. « Or maintenant, dit l'apôtre Paul, verset 9, vous connaissez Dieu, ou plutôt, vous êtes connus de Dieu. » Quand on adore le Dieu vivant et vrai, le non-sens laisse place au rétablissement de la relation la plus essentielle pour chacun d'entre nous, la relation avec notre Créateur. Et contrairement à toutes les idolâtries, cette relation ne dépend pas de tous les efforts qu'on peut y mettre, mais bien de la décision de Dieu d'entrer en relation avec nous, ce qu'on appelle la grâce. Et ce qui est étonnant, c'est que Paul parle du passé païen des Galates et il les met en garde au verset 9. « Comment pouvez-vous retourner à ces éléments impuissants et misérables et vouloir à nouveau en être esclave ?» Alors, on peut ne pas y faire attention, mais c'est bizarre, à première vue, que Paul dise ça. Comment pouvez-vous retourner à vos idoles ? Parce que les Galates n'étaient pas tentés de retourner à leurs idoles. Au contraire, ils voulaient devenir juifs, en quelque sorte. Il voulait adorer le seul vrai Dieu. Alors est-ce que l'apôtre Paul s'en mêle les pinceaux ? Est-ce qu'il a une absence et il confond un moment avec une autre église qui a un problème avec les idoles ? Bien justement non. Parce que pour Paul, lorsqu'on croit qu'il faut accomplir des gestes religieux pour pouvoir être considéré comme juste aux yeux de Dieu, on fait comme si on pouvait maîtriser Dieu comme une vulgaire idole. Dans les deux cas, on fait confiance à nos ressources, à nos efforts, plutôt que de s'en remettre au Dieu vivant et vrai. Et pour Paul, et imaginez à quel point c'était dur à entendre dans le contexte juif de l'époque, pour Paul, ce n'est pas mieux que de retourner aux idoles païennes. D'où ce constat amer au verset 11, « Je crains de m'être donné de la peine pour rien en ce qui vous concerne. » Voilà donc cet argument rationnel de Paul. « Mes amis Galates, mais comment pouvez-vous revenir à la vanité de votre passé ?» Lorsque nous sommes tentés de nous éloigner de l'Évangile, je crois que nous avons besoin aussi d'entendre des arguments tout simplement rationnels pour nous encourager à tenir ferme. Est-ce que nous voulons vraiment revenir à nos idoles passées ? Est-ce que nous voulons vraiment d'une vie sans Dieu, sans grâce, sans espérance, sans rédemption, sans valeur absolue, autre que celle que nous avons choisie pour nous-mêmes, selon les circonstances du moment ? Est-ce que nous serons aussi insensés que les Galates pour nous détourner de la vie véritable après y avoir goûté ? Donc Paul fait appel à la raison des Galates. Et bien sûr, on pourrait ajouter bien d'autres arguments qui s'adressent à la raison. Mais il s'adresse aussi à leurs émotions, et en particulier au verset 12 à 20. Et c'est notre deuxième point, donc un argument émotionnel. Paul a eu parfois dans cette lettre des mots très durs. Il les a même appelés « Galates stupides, qui vous a fasciné ?» Galates insensé, peut-être meilleure traduction. En tout cas, il n'y va pas de main morte. Mais ici, dans ces quelques versets, 12 à 20, il emploie un ton beaucoup plus intimiste. Et ces mots sont chargés d'émotion. Verset 12, « Je vous en supplie, mes frères et sœurs, bien sûr. » On a tous vu des scènes de films où un couple en difficulté a l'occasion de se rappeler les beaux moments de leur histoire. Et souvent, c'est l'un des deux qui dit « Allô, tu te souviens quand on faisait telle promenade à cet endroit et on a entendu telle chanson, notre chanson ?» Eh bien, c'est un peu ce que Paul fait dans ce passage. Il rappelle aux Galates les circonstances de leur première rencontre. Il leur rappelle que lorsqu'il a rencontré ceux qui sont devenus les chrétiens Galates, pour la première fois, il était dans une conditions physiques difficiles. Il semble même que c'est en raison de cette maladie qu'il a fait une escale en Galatie et qu'il en a profité du coup pour annoncer l'évangile. On n'est pas certain, mais c'est ce qu'il semble sous-entendre. Or, les Galates ne l'ont pas méprisé pour cela. Mais au contraire, ils ont été attentifs à son enseignement. Ils ont exprimé leur affection pour Paul. Et surtout, c'était le plus important pour lui, ils ont cru l'évangile, ils ont cru en Jésus-Christ. Et Paul exprime cette affection en termes très forts, verset 15. « Si ça avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Probablement une référence à sa maladie oculaire, vraisemblablement. Ici ou là, d'autres indices dans ses lettres nous amènent peut-être sur cette piste. Mais ce qui importe, c'est ce rappel de l'affection qui le lie aux Galates. Et au verset 16, il laisse parler sa douleur. « Suis-je donc devenu votre ennemi parce que je vous dis la vérité ?» Et il dénonce les mauvaises intentions des faux enseignants qui s'opposent à lui. « Ils veulent seulement vous détacher de nous afin que vous vous preniez de passion pour eux. » Verset 17. Et cet apôtre, qu'on accuse souvent de misogynie, à tort, va jusqu'à se comparer à une femme qui accouche. Il fallait oser quand même. Verset 19. « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'accouchement. » Soi-disant Paul le macho. « Les douleurs de l'accouchement jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. » Et là, il ne termine même pas sa phrase, tout à son émotion. Et d'ailleurs, il dit juste après, « Je ne sais pas, j'arrive même pas à trouver le ton qui convient avec vous. » Paul était un homme d'émotion, et ça, on le voit dans ses lettres, on le voit en lisant les actes. Mais ici, il y a plus que l'émotion d'une amitié en danger. Paul est surtout profondément conscient que Jésus-Christ l'a envoyé proclamer la parole que Dieu adresse à l'homme perdu. La parole qui seule ramène la vie là où il y a la mort et la perdition. Et pour lui, il n'y aurait rien de pire que de constater que les Galates ont réellement et définitivement tourné le dos à cette parole, à Jésus-Christ. Alors il fait appel à leurs souvenirs, à ce qu'ils ont vécu ensemble avec le Seigneur. Et on voit qu'il n'a pas perdu tout espoir de les regagner à la cause de l'Évangile. Voilà, voici la question que je me pose en lisant ces versets. Et je nous la pose. Est-ce que nous vivons des relations entre frères et sœurs, dans cette Église notamment, qui sont si fortes, si profondément ancrées dans la grâce que Dieu nous a faite, que lorsque nous passerons par l'épreuve ou le doute, nous pourrons nous accrocher non seulement à des arguments rationnels qui sont importants, mais nous pourrons aussi nous accrocher à cette affection, à cet amour, à ce vécu commun. Ce texte nous rappelle au passage que ceux qui doutent ou ceux qui sont découragés ont besoin de notre affection et parfois même plus dans un premier temps que de nos paroles ou de nos raisonnements. Paul dit que les Galates, par le passé, l'avaient accueilli comme un ange de Dieu et même comme Jésus-Christ, comme si c'était Jésus qui était venu les voir. Peut-être que nos paroles et nos actes d'affection à l'égard de ceux qui passent par des temps de doute, de souffrance, d'épreuve, de tentation, eh bien peut-être que ces paroles et ces actes seront entendus comme des paroles et des actes de Dieu, pour lesquels nous serons de simples instruments. Mais si notre communion reste superficielle, il sera difficile d'y faire appel, comme Paul le fait ici. On ne peut pas vraiment dire « rappelle-toi ce qu'on a vécu ensemble » lorsqu'on n'a pas vécu grand-chose ensemble. Donc n'oublions pas que l'Église est une communauté vivante et que Dieu veut utiliser nos relations pour nous aider à persévérer dans la foi. Donc Paul a employé un argument rationnel, un argument émotionnel, il termine par un argument biblique. Les versets 21 à 31 sont sans doute les plus difficiles de toute la lettre aux Galates, qui est une des lettres plutôt les plus difficiles de l'apôtre Paul. Donc ce n'est pas un texte évident. La bonne nouvelle, c'est que le sens global qui en ressort et l'application que l'apôtre en fait est clair. On se souvient qu'au début de notre texte, Paul met en garde les Galates contre un retour à l'esclavage. L'esclavage de leurs propres efforts, l'esclavage des idoles, l'esclavage de l'obéissance à la loi religieuse en cherchant à y trouver là une justification devant Dieu. Et dans les versets 21 à 31, eh bien Paul va illustrer cela. Et il va illustrer cela à partir d'un récit biblique bien connu, celui de Sarah et Agar. Et il va utiliser cette image pour illustrer le contraste entre la liberté qu'apporte l'Évangile et l'esclavage qu'apporte une foi qui cherche son espérance et sa justification dans l'obéissance à la loi religieuse. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, 18, 21, on apprend qu'Abraham, à qui Dieu avait promis une descendance, commençait à se demander comment ça allait arriver, puisque sa femme était stérile. Dieu avait promis qu'il agirait, il a même promis explicitement que ce serait sa femme Sarah qui donnerait naissance à un fils. Mais les années passent, ça n'arrive toujours pas. Sarah n'est plus toute jeune, même elle a largement dépassé l'âge d'avoir un enfant. Alors le couple se concerte et décide de prendre le contrôle des événements. Abraham, avec l'accord de sa femme, va s'unir à une esclave, Agar. Un fils va naître de cette union, Ismaël. Mais Dieu va quand même renouveler sa promesse. C'est Sarah qui donnera naissance au fils promis. Et c'est ce qui va arriver enfin. Elle va donner naissance à Isaac. Plus tard, suite à un incident où Ismaël s'en prend à son demi-frère Isaac, Abraham et Sarah vont renvoyer de chez eux Agar et son fils. C'est un épisode poignant, plein de tristesse, en même temps touchant parce qu'on voit que Dieu va prendre soin d'Agar et de son fils et même leur adresser des promesses. Mais ça nous montre bien les conséquences du manque de foi d'Abraham et de Sarah. Abraham qui, plutôt que de s'attendre à la grâce de Dieu, a essayé par ses propres efforts de faire venir la promesse. Et là, on commence peut-être à voir le lien que l'apôtre Paul va établir. Bien des siècles après ces événements, le prophète Ésaïe, chapitre 54, va revenir implicitement sur ce récit d'Agar et de Sarah, et il va comparer la restauration future de Jérusalem à une femme stérile qui s'est crue rejetée, mais qui finalement a connu la délivrance. Et c'est ce texte que Paul cite, au verset 27, « Sois en fait femme stérile, car les enfants de la délaissée sont plus nombreux que ceux de la femme qui a son mari. » Et là, pour bien comprendre où Paul veut en venir, il faut se rappeler déjà à quel point Abraham est important dans cette lettre aux Galates. Abraham, c'est celui à qui Dieu a promis une descendance. Et il est aussi celui à qui Dieu a promis que toutes les nations obtiendraient une bénédiction de Dieu par lui. Et ce que Paul veut montrer aux Galates, c'est qu'ils n'ont pas besoin de devenir juifs pour connaître Dieu. Parce que par la foi en Jésus-Christ, ils héritent de cette promesse qui a été faite il y a des siècles à Abraham pour toutes les nations. Donc c'est vrai, ils ne sont pas descendants physiques d'Abraham, mais ils sont ses descendants spirituels. Ils sont ses descendants selon la promesse. Et pour illustrer cela, Paul utilise cet argument complexe, c'est vrai, mais riche. En prenant d'une part le récit d'Agar et de Sarah dans la Genèse et d'autre part le texte d'Ésaïe 54, il va établir un constat entre la naissance d'Ismaël, qui est le résultat d'une tentative humaine pour obtenir la faveur de Dieu, et la naissance d'Isaac, qui est venue par la promesse de Dieu et par la grâce de Dieu. Si Paul fait appel à cette illustration qui nous semble un peu alambiquée, c'est sans doute parce que ses adversaires disaient aux Galates, si vous voulez être héritier d'Abraham, et si vous voulez entrer dans les promesses de Dieu, eh ben, c'est pas compliqué, il faut observer la loi juive. C'est comme ça que vous allez devenir descendant d'Abraham. Mais Paul va renverser complètement leur argument. Et il va dire, au contraire, ceux qui croient qu'il faut accomplir des efforts humains pour être trouvés justes aux yeux de Dieu, ils sont héritiers, non pas d'Isaac, fils de la promesse, mais ils sont héritiers d'Ismaël, le fils de l'esclave, celui qui est né lorsqu'Abraham a préféré se fier à lui-même plutôt qu'à la grâce de Dieu. Et Paul va même plus loin. Il faut prendre conscience à quel point c'est scandaleux ce qu'il dit là pour des juifs à l'époque. Il va plus loin en associant à Agar le judaïsme de son époque. Verset 25, la Jérusalem de maintenant, par contraste avec la Jérusalem d'en haut, céleste. Cette réalité nouvelle que Dieu offre à tous ceux, juifs ou non-juifs, qui placent leur foi en Christ. Donc, on est d'accord, le raisonnement de Paul ici est assez complexe. Et si on voulait dire la même chose que lui, on emploierait sans doute un argument différent. Mais ça reflète aussi la manière dont, à l'époque, on réfléchissait très profondément au rapport entre les différents textes bibliques, ce qu'on a un peu perdu aujourd'hui. Mais sa conclusion est simple. Ne retournez pas à l'esclavage. Ne retournez pas à l'esclavage de vos propres efforts, parce que vous êtes héritier d'une promesse reçue par la foi. Donc Paul a fait appel à la raison, à l'émotion. Il fait ici appel à la Bible pour exhorter les Galates à tenir ferme dans la foi. Et pour nous, c'est le rappel de l'importance d'un enseignement solide pour tenir bon dans l'épreuve. le doute ou la tentation. Trop souvent, la foi chrétienne, je force un peu le trait, mais peut se résumer à quelques clichés appris au fil des années, tirés de la Bible sans aucun doute, mais qu'on peine à faire entrer dans une vision profonde et cohérente du plan de Dieu. Et notre époque, qui aime les phrases de moins de 120 caractères, les vidéos d'une minute, les formules choc, n'est pas propice à un approfondissement de nos connaissances bibliques. Mais nous en avons besoin plus que jamais. Et c'est pourquoi nous cherchons, dans cette Église, très imparfaitement, à placer l'Écriture au centre de nos rencontres, de nos réflexions, et même, je l'espère, de nos relations. Et c'est pourquoi je vous encourage, comme je m'encourage aujourd'hui encore, à creuser ces écritures si précieuses qui nous révèlent la grande histoire de Dieu et des hommes et qui nous révèlent aussi notre place dans cette histoire en tant que disciples de Jésus-Christ, en tant qu'héritiers justement des promesses faites à Abraham. Et lorsque nous serons tentés de douter de tout, alors j'imagine que ça nous arrive. Lorsque nous serons tentés de douter de tout, ce n'est pas de clichés qu'on aura besoin. C'est rare que les clichés aident vraiment dans l'épreuve. Mais c'est de cette parole qui traverse les âges et qui nous annonce la bonne nouvelle que Dieu nous adresse pour nous sauver de l'esclavage, de nos propres tentatives de faire venir ses promesses. C'est lui qui est le Dieu de grâce, c'est lui qui est le Dieu qui promet. Et c'est lui qui, en Jésus-Christ, pour toujours, nous a déclarés justes à ses yeux et nous appelle à vivre une vie en conséquence de cela. Mais non pas par nos propres forces, mais par sa grâce. Amen.